Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, eh bien qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Amen. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Amen. Alors, on sait tous très bien ce matin que l'eau est un des éléments essentiels, sinon l'essentiel de la vie, bien sûr. Il faut un petit peu d'air aussi pour respirer. Hein, ce matin, on est bien conscient de cela. Mais dans le livre de la Genèse, dès le livre de la Genèse, il est question d'eau. Vous vous rappelez que c'est un chaos, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu, eh bien, il planait au-dessus de l'eau, au-dessus de l'eau. Et donc, cette eau, c'est l'image, bien entendu, de la vie. Et ce matin, pour faire un parallèle, juste peut-être une info quand même, je lisais ça dernièrement, il y a quand même 2 milliards, pratiquement et demi, de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Alors que l'eau, c'est la vie. On est vraiment des privilégiés, non, en Europe. Et mais il y a 2 milliards de personnes actuellement qui n'ont pas accès à l'eau potable. Tout à l'heure, on va rentrer chez nous, on va ouvrir le robinet, sortir du frigo bien ce qu'on a besoin. Et béni soit Dieu pour cela, mais soyons conscients du privilège. Et s'il y a un privilège dans le domaine physique, il y a un privilège extraordinaire dans le domaine spirituel. Dieu, Christ, devient pour nous la source de vie intéressable. Amen. La source de vie intéressable. Alors, on va faire un parallèle ce matin avec trois moyens dont Dieu se sert pour nous rafraîchir. Et le premier moyen, on le trouve dans Jérémie au chapitre 2, versets 1 à 3. C'est Dieu qui parle à son peuple dans un moment là aussi d'idolâtrie. Et voilà ce que le prophète va dire, inspiré par le Saint-Esprit. « Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. » Le premier élément dont Dieu se sert sur cette terre, mais aussi dans nos vies, on va faire un parallèle pour nous rafraîchir, ce sont les sources d'eau. Hein, les sources d'eau, on en parle beaucoup en ce moment, parce que même en Europe, eh bien, on voit que ces sources d'eau c'est, qui alimentent alors les nappes phréatiques, les bassins, les fontaines, nos châteaux d'eau, les lacs, etc. On pourrait multiplier les exemples de ce que peut abreuver une source d'eau. Eh bien, ces sources d'eau, donc, d'une manière spirituelle, elles existent également. Et ici, il y a un reproche au peuple de Dieu. Il est devenu, j'oserais dire, un nouveau idolâtre. Et Dieu lui fait ce reproche en disant, mais je suis une source d'eau vive. C'est moi qui suis la source d'eau vive. Et ce matin, on va prendre quelques exemples de sources d'eau ou de puits. Et on va donner un nom à ces puits pour que nous puissions nous rappeler de sa bienveillance. Le premier puits, je l'ai appelé, ou l'eau de source, celui de la bienveillance divine. C'est dans Genèse 16, versets 1 à 11, qu'on retrouve une première fois une certaine Agar. Je ne sais pas si vous la connaissez ou si vous vous rappelez un petit peu de son histoire. Mais ici, le moins qu'on puisse dire, c'est que le contexte familial est très, très compliqué. Abraham et Sarah ont eu une promesse de la part de Dieu concernant bien ce fils, et puis ils attendent quelques années, plusieurs années, rien ne vient. Et Sarah, en désespoir de cause, bien va dire à Abraham, écoute, que notre servante accouche là à ma place pour qu'il y ait un fils. Et on connaît l'histoire, bien sûr. Et dans Genèse, au chapitre 16, verset 1 à 11, on arrive à ce moment où il y a un contexte tendu. Hein, vous avez le texte sous les yeux, mais en résumé, lorsque Agar, la servante, voit qu'elle est enceinte, elle va mépriser, bien sûr, sa maîtresse. Dire, tu vois, moi je suis enceinte, toi tu es stérile, etc. Et à partir de là, Sarah va demander à Abraham de chasser, bien sûr, cette servante. Et finalement, bien, Agar qui est enceinte, qui méprise Sarai, etc. Sarai qui la maltraite, et puis, eh bien, Agar va s'enfuir enceinte dans le désert. C'est une détresse familiale profonde. C'est une crise familiale profonde où chacun ne se supporte plus. Alors que se passe-t-il ? Eh bien, Agar, qui est enceinte, fatiguée par ce conflit, mais aussi bien sûr par sa marche dans le désert, va s'arrêter près d'une source d'eau pour se rafraîchir, peut-être pour réfléchir, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est là que Dieu va la rencontrer. C'est là que Dieu va rencontrer près de cette source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Et j'ai appelé cette source la source de la bienveillance divine. Il y a une expression qui m'a interpellé, qui est un peu plus loin, où il est dit que l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. L'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Bien entendu que Agar a sa part de responsabilité dans ce conflit, mais cela ne va pas empêcher Dieu de l'aider. Ce n'est pas pour cela que Dieu va l'abandonner à son triste sort. Ce n'est pas pour cela que Dieu va la laisser tomber. Malgré sa responsabilité, d'ailleurs Dieu lui demandera de retourner, eh bien malgré tout, Dieu va la rencontrer près de cette source d'eau et va intervenir auprès donc d'Agar. L'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Qu'est-ce qui ce matin te fait pleurer ? Qu'est-ce qui assombrit ton regard ? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un avenir serein ? On aurait tous, peut-être ce matin, quelques raisons à partager au Seigneur. Peut-être une crise familiale profonde, parce que ça existe. Même dans le milieu, bien sûr, des frères et sœurs en Christ, il y a des crises profondes parfois qui se passent. Mais Dieu, ce matin, nous demande de pouvoir nous asseoir, réfléchir auprès de ce puits qu'on appellera le puits de la bienveillance divine. Je t'ai entendu dans ton malheur. Dieu est prêt à nous rencontrer. Dieu est prêt à s'asseoir avec nous, à notre niveau, à nous parler, à nous conseiller, à nous éduquer, à nous reprendre, mais prendre du temps pour nous désaltérer auprès de ce puits, parce que la source d'eau, c'est un moyen dont Dieu se sert pour nous désaltérer. Le puits de la bienveillance divine. Et ce matin, il est accessible pour chacun d'entre nous, même si pour l'instant, nous ne reconnaissons peut-être pas notre part de responsabilité. Malgré tout, eh bien, nous pouvons nous asseoir et laisser Dieu nous désaltérer. Genèse 21, plusieurs années plus tard, on pourrait dire qu'on a l'impression que l'histoire se répète. On pourrait dire, on prend les mêmes et puis on recommence. Mais là, ce n'est plus Agar. Là. La maman, c'est Ismaël. Hein, c'est le fils, là aussi, certainement ado, qui, par un sourire que Sarah va capter, bien méprise aussi. Je ne sais pas, en tout cas, ce qui se passe dans le cœur de cet ado. Des fois, c'est un petit peu compliqué aussi, nous, en tant que parents. Mais il y a quelque chose qui se passe. Et puis, bien, à nouveau, eh bien, ils vont se retrouver dans le désert. Là, ils sont chassés, etc. Et puis la situation va venir désespérée, parce qu'ils vont bientôt mourir tous les deux. Ils ont épuisé leur eau, etc. Et finalement, bien, la seule réaction de cette maman, et elle est terrible, c'est de s'éloigner de son ado pour ne pas le voir mourir. C'est un choix, je veux dire, qui est terrible pour une maman de laisser un peu son ado comme ça. Elle ne veut pas le voir mourir, elle ne veut pas le voir souffrir. Ne nous arrive-t-il pas non plus parfois de vivre des moments désespérés, de désespoir profond, où nous pensons bien qu'il n'y a aucune solution, comme pour cette maman, où malgré toutes nos ressources personnelles, bien, qu'on a épuisées, on a essayé, mais sans aucun résultat, et finalement on se retrouve ici dans le désert, sans force, sans aucune espérance, sans aucune ligne de mire, bien sûr, mais ici encore, et j'ai appelé cette deuxième source la source de la fidélité de Dieu. Là encore, Dieu est une source d'eau vive. Les problèmes, on va dire ça comme ça, la tension, ce qui se passe, empêche certainement Agar de voir ce puits. Ses yeux sont voilés, son regard est voilé. Certainement avec la fatigue aussi, on pourrait expliquer beaucoup de choses. Mais Dieu va lui révéler le puits ou la source de sa fidélité. Pourquoi je dis cela ? Parce que Dieu est fidèle à ses principes. Parce que même si Ismaël n'est pas le fils de la promesse, il demeure malgré tout le premier-né d'Abraham. Et en tant que premier-né, eh bien, il y a des lois que Dieu a établies et Dieu ne peut pas se renier. Dieu ne peut pas renier sa parole. C'est le premier-né. Et il a droit aussi à la bénédiction. Et Dieu le dira, le rappellera bien sûr à Agar. Verset 13, « Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave. Il est ta descendance. » Dieu demeure toujours fidèle à sa parole, quelles que soient nos infidélités, quels que soient nos écarts de conduite, quels que soient bien nos dérapages contrôlés ou incontrôlés, peu importe. Il y a ce puits ce matin pour nous, le puits de la fidélité divine. On pourrait tous passer ici et puis dire, eh bien oui, dans tel moment de ma vie, la fidélité de Dieu s'est manifestée. Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle à sa parole. Amen. Et ce matin, nous pouvons revenir tout à nouveau à ce puits pour y découvrir la fidélité de notre Dieu qui nous abreuve. Et quand on est abreuvé à cette sorte de source, eh bien on est renouvelé. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta bienveillance, merci pour ta bonté. Je veux continuer avec toi, montre-moi le chemin, mais Seigneur, eh bien, je reprends des forces ce matin. Amen. Dieu est fidèle. Genèse 24, un autre puits. Genèse 24, 12, verset 20. On est toujours dans cette famille. Le serviteur d'Abraham va partir en expédition pour chercher une épouse pour son fils. À cette époque, c'était comme ça que ça se passait. Et là, eh bien, il y a une prière du serviteur. Elle est extraordinaire. Elle est en lien avec l'eau. Elle est en lien avec l'eau. Parce que ce serviteur va faire cette prière. Il va dire, eh bien, là où je me tiendrai, si quelqu'un eh bien, me donne de l'eau pour moi, mais aussi pour mes chameaux, alors ce sera bien l'épouse que tu as destinée pour le fils d'Abraham. Alors, j'ai quand même regardé, je suis curieux de nature. Est-ce que vous savez combien de litres d'eau un chameau peut ingurgiter en 3 ou 4 minutes? Dites-moi voir un peu. Oui, mais encore. Dites-moi voir. C'est plus. 100 litres. 100 litres d'eau. Alors, je ne sais pas combien ce serviteur avait de chameau, hein, mais imaginez quand même un petit peu le cœur hein, de cette jeune fille. Vous vous rappelez comment elle s'appelle, cette jeune fille? C'est Rebecca. Effectivement, c'est Rebecca. Hein, qui va puiser de l'eau pour ce serviteur et puis pour tous ces chameaux, jusqu'à que tout le monde soit rassasié. Et moi, j'ai appelé ce puits le puits du rendez-vous divin. Le puits du rendez-vous divin. Et il y a dans nos vies des moments forts où Dieu nous attend. Ce n'est pas nous attendre au tournant, dans le mauvais sens du terme, mais c'est des moments importants, c'est des rendez-vous divins que Dieu a fixés pour que nous puissions là aussi nous asseoir, le rencontrer, et puis voir notre vie vraiment prendre une orientation particulière. Alors ici, c'est le domaine du mariage, et c'est vraiment un rendez-vous à ne pas rater. Il faut que pour nous, en tant que croyants, ce soit un rendez-vous divin. On ne peut pas se permettre de rater ce rendez-vous. Il y a d'autres rendez-vous divins. On peut penser bien sûr aux études, on peut penser au choix d'un travail. Là aussi, il y a des moments forts dans nos vies, il y en a quelques-uns comme ça, qu'il ne faut pas rater. Et ce matin, peut-être que certains bien, sont à ce moment de leur vie où ils ont besoin d'un rendez-vous divin. Bien, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle, c'est que, comme Rebecca, hein, Dieu veut prendre son temps pour nous abreuver. Si on a des chameaux avec nous, bien, il le fera aussi. Mais ça prendra du temps, dans le sens où cette jeune fille, hein, courageuse, on pourrait développer toutes les qualités, bien sûr, hein, qu'elle a. Mais ici, Dieu va prendre ce temps, veut prendre du temps avec nous pour que nous ne rations pas ces rendez-vous divins. Il y en a quelques-uns dans nos vies. Hein, et si ce matin, c'est l'occasion pour quelqu'un en particulier d'un rendez-vous divin, bien, réjouissez-vous. Parce que Dieu vous attend à ce puits, à cette source, pour vous abreuver, pour vous rafraîchir. Parce que quelle que soit l'orientation que Dieu nous donnera, on aura toujours des embûches, on aura toujours des soucis, il y aura toujours des épreuves. Mais à ce moment-là, on se rappellera que, quelque temps auparavant dans ma vie, il y a eu un rendez-vous divin. Seigneur, je m'appuie sur ce rendez-vous, je m'appuie sur cette parole que tu m'as donnée, je m'appuie sur ce signe que tu m'as donné. Alors Seigneur, eh bien, je persévère, je continue, je te remercie pour ce rendez-vous divin qui était une marque dans ma vie et qui me permet aujourd'hui eh bien, de continuer ainsi ce que tu m'as demandé de faire. Amen. Et puis il y en a un autre, Josué 15, versets 13 à 19. Et ici, eh bien, il est en question de mariage, ce sont des jeunes mariés. Hein, et puis donc, dans Genèse 15, 13, Il est question donc d'un défi que Caleb donc va donner, etc. Donc il dira, voilà, je donne ma fille. Ça se passait aussi comme ça le mariage. Hein. Je donne ma fille à celui qui est vainqueur sur les Philistins. Hein. On a une sœur qui sourit là. Ce sont des critères. C'était des critères à l'époque. Hein. Bon. Et puis donc ça va se passer. Et puis à la suite, eh bien, il va y avoir un mariage. Hein, et puis, je donnerai ma fille, Aksa, pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer, qui la prendra. La suite nous dit bien qu'effectivement, tout va se passer comme cela. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne et Caleb lui dit, qu'as-tu ? Et la suite nous dit, elle répondit, fais-moi un présent, tu m'as donné une terre au midi. En plein sud, en plein soleil, donne-moi aussi des sources d'eau. Donne-moi aussi des sources d'eau. J'ai appelé ces sources les sources de la foi. C'est un jeune couple qui s'installe dans une terre un peu aride, en plein sud, en plein midi, etc. Et pour s'installer, pour installer la maison, pour faire de la culture, pour du bétail, il faut de l'eau. Il faut de l'eau. Alors, cette jeune femme, cette jeune mariée, eh bien, elle va oser demander. Elle va oser demander. Et ce matin, bien le Seigneur, dans Matthieu 7,7, nous dit, bien, demandez et vous recevrez. Il y a des moments dans nos vies où nous allons être amenés à faire un pas de foi, à entrer dans les promesses de Dieu. Et ici, bien, cette jeune femme, elle a osé, elle a demandé, c'est une source de la foi. On peut être devant une vitrine, alors vous mettez ce que vous voulez derrière la vitrine. Pour certains, c'est des petits pains au chocolat, c'est une boulangerie. Pour d'autres, je ne sais pas, moi, c'est un magasin de voiture. Pour d'autres, vous mettez derrière ce que vous voulez dans la vitrine, d'accord ? Les heures d'ouverture, c'est ouvert. Il y a un gros panneau, ouvrez, entrez, c'est ouvert, etc. Et puis, dans vos poches, vous avez une carte bancaire, etc. Vous avez un compte qui est plein. Vous pouvez rester toute votre vie devant la vitrine. Dire, ah, il est appétissant, c'est pour moi, je parle, ce pain au chocolat. Ah, j'aimerais bien quand même un bon pain au chocolat. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette Mercedes 350, je ne sais pas combien, là. Waouh, j'aimerais bien quand même, etc. Vous pouvez rester toute votre vie devant la porte en disant, oh, waouh, waouh, waouh. Mais si vous n'entrez pas, si vous ne payez pas, eh bien, vous resterez toujours devant sans saisir. Et il y a des moments dans nos vies, eh bien, où Dieu nous demande un acte de foi, un pas de foi, aller aux sources de la foi pour entrer dans ce magasin, pour entrer, pour saisir les promesses de Dieu. Et cette jeune fille nous donne un bel exemple. Elle a osé, elle a demandé. Elle a dit, écoute, moi, j'ai bien du terrain en plein sud, mais moi, il me faut des sources. Il me faut des sources. Et ce matin, peut-être que quelqu'un là aussi, bien, tout simplement, a besoin de faire cet acte de foi. Seigneur, eh bien, je te demande, au nom de Jésus, hein, dans ce tel domaine, d'aller un peu plus loin avec toi, et Dieu sera honoré. Amen. Quelques sources pour nous ce matin. Il y a un deuxième moyen dont Dieu se sert, eh bien, c'est la pluie. Bien sûr. Juste une petite question. Est-ce que vous vous rappelez à quel moment la pluie va venir sur cette terre ? Est-ce que vous vous en rappelez ? Quand est-ce que la pluie va venir ? Elle déluge, exactement. Hein, il est question donc de ces écluses du ciel, ces écluses également de la terre qui vont s'ouvrir à partir du moment du... C'est le déluge, c'est dans Genèse 7. Hein, et avant, bien, il est dit que pour le jardin d'Éden, c'était comme une vapeur qui montait et puis qui arrosait donc le jardin. Alors, la pluie, il y a au moins deux exemples. Le premier, c'est dans 1 Roi 18, 41-46. Hein, le texte va s'afficher. C'est ce moment où Élie, hein, Élie bien, va faire monter son serviteur sur cette montagne. Juste avant, ce sont 400 ou 450 prophètes de Baal qui ont été exterminés. Un moment fort dans la vie d'Élie. Et puis, pendant 3 ans et demi, la pluie n'est pas tombée sur la parole de l'Éternel. Et là, on est dans ce cadre, il y a la sécheresse, ça fait 3 ans et demi que ça dure. Et puis, Élie va dire à Akab, eh bien, écoute, maintenant la pluie va venir, attelle ton char et puis vas-y. Et donc, il y a un moment intermédiaire où, cette fois, Élie va dire à son serviteur, monte et regarde, monte et regarde. Et cette fois, bien, ce serviteur est monté, et la septième fois, il va dire ceci, bien, voilà, je vois, hein, donc je vois un nuage, c'est comme la paume d'une main, hein, mais voilà ce que je vois. Tout à l'heure, on a parlé de la foi, la source de la foi. Mais ici, j'ai appelé cette pluie la pluie de la persévérance de la foi. l'appui de la persévérance. Pendant sept fois, Élie va demander à son serviteur de monter. Il aurait pu s'arrêter la deuxième fois, il n'y a rien, écoute, oui, je me suis trompé, etc. Sept fois. Et ça, c'est la pluie de la persévérance. Où il y a des moments dans nos vies où le Seigneur va nous aider à persévérer. Alors ce nuage, ce petit nuage, peut-être est pour quelqu'un ce matin le symbole d'une petite victoire. C'est peut-être un petit changement chez quelqu'un ou dans vos vies, dans votre caractère, ou comme un petit progrès. Ne négligez pas ces petits commencements. Ne négligez pas ces petits progrès. Parce qu'il y a cette pluie de la persévérance qui est là. C'est comme ce nuage, cette paume de main, c'est pas grand-chose. Mais c'est déjà les prémices de ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. C'est peut-être un petit exaucement de prière, comme s'il y avait des petits et des grands, mais c'est un petit peu pour nous remettre dans le contexte. Et vous dites, oh Seigneur, merci, alors je vais aller un peu plus loin. Là aussi, dans le domaine de la foi, de la guérison, de la vie de l'esprit, Seigneur, eh bien, oui, des petits progrès aussi sur la manière dont on gère notre emploi du temps, d'autres choses. Ne négligeons pas les petits commencements. Il y a aussi la pluie de la persévérance. Amen. Éphésiens 6:13, il nous est dit « Persévérez après avoir tout surmonté ». Persévérer, mon frère, ma sœur, ne lâche rien, comme disent certains sportifs, ne lâchez rien, mais persévérez. Là aussi, attendons ce que le Seigneur nous a promis. C'est peut-être pour l'instant comme la paume d'une main, peut-être insignifiant, voire négligeable, mais c'est un petit commencement. C'est la pluie là aussi de la persévérance qui va se manifester. Et puis, il y a une deuxième pluie, c'est dans Osée 6:3, j'aime bien ce passage, on va le lire ensemble. « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue était aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Amen. Alors je sais que Christian et Evelyne sont allés en Israël, et là il y a deux saisons des pluies. Il y a celle, alors octobre, novembre, décembre. C'est la première pluie, de la grosse pluie qui va arroser la terre, qui va finalement la préparer un petit peu pour le labour. Et puis après, il y a la dernière pluie, la pluie du printemps, comme ils disent ici, l'arrière-pluie, celle qui est au mois de mars. C'est celle, bien sûr, qui va donner la croissance. Et il y a ici, bien sûr, un contexte local. À cause de l'idolâtrie, le ciel est fermé. Mais j'ai appelé cette pluie pour nous, c'est la pluie de la moisson, c'est la dernière pluie, c'est la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la moisson. Nous sommes de cette génération, je le crois, je partage avec vous, nous sommes cette génération d'une moisson particulière. Christ est à la porte, il revient bientôt nous chercher. Et alors, ce n'est pas de la doctrine, c'est une conviction personnelle, ne confondons pas les choses, mais si on faisait partie de cette dernière moisson, une moisson particulière où on va être engrangé directement dans le ciel, où on va partir directement comme des gerbes transformées sur les nuées du ciel à la rencontre du Seigneur. C'est quand même une moisson extraordinaire celle-là, la dernière moisson, grâce à la dernière pluie, la pluie de l'arrière-saison. Et nous prions pour nos familles, nous prions pour notre nation, nous prions pour ce monde, que ce monde connaisse avant le retour de Jésus un dernier moment de visitation du Seigneur, un dernier moment de visitation du Saint-Esprit pour que les cœurs s'ouvrent et qu'avant qu'il revienne nous chercher, eh bien le plus grand nombre puisse être sauvé. Amen. Et Paul dira aux Thessaloniciens pour cette pluie de la moisson, il dira dans 1 Thessaloniciens 4:18, « Encouragez-vous, exhortez-vous les uns les autres. » Il revient bientôt. Amen. Et nous faisons partie de cette moisson, de cette dernière moisson, parce qu'il y a la pluie de l'arrière-saison, la pluie du printemps, la pluie qui fait grandir, qui fait croître nos cœurs et nos vies. Et ce matin, bien, on veut bénir le Seigneur pour cette réalité. Amen. Nous faisons partie de cette belle génération. Et puis, un dernier phénomène pour nous désaltérer. Alors, celui-ci est peut-être moins spectaculaire. Il est peut-être moins visible, moins fréquent, moins connu, mais il apporte également une même qualité de rafraîchissement, C'est la rosée. C'est la rosée. C'est pas du ciel, c'est pas de la terre. C'est un phénomène, vous le savez, de condensation. Mais cette rosée, là aussi, fait partie du moyen dont Dieu se sert, des moyens dont Dieu se sert pour nous rafraîchir, pour nous désaltérer. Et là, il y a un des psaumes les plus connus qu'on va lire ensemble. C'est le psaume 133, vous le connaissez, qui parle bien de cette rosée. Elle nous parle de l'huile, mais c'est la même image. Voilà ce qu'il est dit. Il est agréable, il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Et la suite nous dit ceci, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Alors, j'ai appelé, et ça, on y est tous conscients ce matin, c'est la rosée de la communion fraternelle. Elle fait partie aussi des éléments rafraîchissants, dont Dieu se sert eh bien, pour nous faire grandir. J'aime bien Acte 2, 42, pour moi, c'est le fondement de la communauté, de l'Église. Il persévérait dans la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières et l'enseignement des apôtres. Et la communion fraternelle fait partie de cette rosée bienfaisante où ensemble, eh bien, nous pouvons nous exhorter, nous encourager. Oh, bien sûr, il ne faut pas se leurrer non plus. Il y a parfois quelques incompréhensions. Il y a quelques communications parfois difficiles. Mais réalisons ce matin que cette rosée est une rosée qui est bienfaisante. Aucune occasion de chute, dira Jean, pour celui qui aime son frère. C'est extraordinaire, ça. Aucune occasion de chute pour celui qui aime son frère. L'Hermon culmine à plus de 3000 mètres. Et son sommet, justement, dans cette période, est parfois enneigé. Et alors, donc, il permet de refroidir l'air qui arrive en haut, etc., qui, en redescendant, eh bien, va condenser. Et puis, non seulement arroser tous les pieds de l'Hermon, mais toutes les vallées qui sont là, et parfois même jusqu'à Sion. Et toutes ces cultures qui sont sèches, qui sont desséchées sans cette rosée, eh bien, trouvent dans cette rosée rafraîchissante cette eau. Pourquoi ? Et on sait qu'il y a des plantations extraordinaires dans ces régions de culture, là aussi, où Israël a fait de gros progrès dans l'irrigation, mais naturellement aussi, cette rosée eh bien, va être une source de richesse pour ces plantes. La communion fraternelle, l'unité dans la diversité, la richesse de la complémentarité, la vérité dans l'amour. Qu'est-ce que j'ai mis ? J'écris un soutien dans la détresse. Et puis, elle nous permet de porter du fruit. Galates 5, 22 nous dit bien le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la fidélité, la douceur. La douceur. Et ce matin, bien, nous voulons bénir le Seigneur pour la rosée de la communion fraternelle. Et puis, j'en ai encore deux. Et on conclura, c'est dans Nombre 11, versets 7 à 9. Je relisais ce texte, et puis il y a quelque chose qui m'a interpellé. C'est qu'ici, la rosée, elle est associée à quelque chose de particulier. Donc, dans Nombre 11, verset 9, c'est la rosée qui est associée à la manne. À la manne. Le peuple se dispersait donc pour la ramasser. Il la broyait, etc., etc. C'est peut-être au verset suivant. Où il est dit, voilà, quand la rosée descendait sur le camp, la manne y descendait aussi. C'est extraordinaire, ça. Quand la rosée descendait, imaginons quand même le côté pratique. En plein désert, il y avait la rosée la nuit. Ça faisait un office déjà de climatisation. C'était le climatiseur, le brumatiseur, je ne sais pas comment on dit, naturel. Et, je veux dire, Dieu pense même aux petits détails. Et puis, quand la rosée elle venait, eh bien, la manne descendait. La rosée qui est associée à la manne, à la nourriture céleste, au pain de vie, descendu du ciel. Et c'est Jésus qui nous le rappelle ce matin. Il dit, je suis le pain de vie. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. La rosée de la vie de Dieu, de la vie abondante, de la vie surabondante de Dieu, de la vie éternelle. Ce matin, frères et sœurs, on est quand même des privilégiés, puisque lorsque nos yeux verront le Seigneur, lorsqu'ils se fermeront ici-bas, bien, nous savons où nous allons. Nous sommes animés de la vie de Dieu, la rosée de la vie de Dieu. Dieu a une provision matinale, quotidienne, de rosée bienfaisante pour chacun d'entre nous. une provision matinale, quotidienne, bienfaisante pour chacun d'entre nous, ce qui nous permet bien de gérer notre journée de la meilleure façon. Hein, je ne sais pas ce que vous mangez au petit déjeuner, des cornflakes, du café, du lait, etc. Faites, c'est bien, hein, faites. Mais n'oublions pas, Lamentations 3.22, ça fait partie du petit déjeuner, hein, où Jérémie va dire ceci, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent quand ? Chaque matin, même demain, le jour du travail, hein, la fête du travail, même un 1er mai, eh bien, il y aura la fidélité de Dieu, il y aura cette rosée qui va nourrir notre vie, nous fortifier, nous renouveler. Et Jérémie va dire, « Oh, que ta fidélité est grande !» Amen. Que ta fidélité est grande. Allez, la dernière, c'est celle de Gédéon. Hein, Juge 6, verset 36. J'aime bien Gédéon, vous le connaissez aussi. Gédéon, c'est un homme qui est courageux et qui a besoin d'être rassuré. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est courageux. Et c'est pour ça que Dieu va l'encourager. Et plusieurs fois, Dieu va encourager Gédéon. Pourtant, on pourrait dire, moi, si Dieu, un jour, vient me voir et me dit « vaillant héros » ou « vaillante héroïne », moi, il n'y a pas de problème, je pars comme ça. Oui, je ne sais pas comment on réagirait. Mais en tout cas, Gédéon, Dieu le connaît dans sa personnalité et il a besoin d'être rassuré. Vaillant héros, c'est toi qui vas délivrer ton peuple, etc. On connaît. Et Gédéon dit, oui, mais comment tu feras, etc. Alors, il va d'abord mettre en pièces des Astartés, des Baals, etc. Mais il va le faire de nuit. Mais il va le faire quand même. Mais il va le faire de nuit, on est bien d'accord. Et puis après, il dit, bah, écoute, c'est vraiment toi qui m'appelles. Alors, je vais mettre une toison. Hein, vous connaissez la toison. Je crois que la première fois, eh bien, la toison va être remplie de la rosée, l'extérieur sec, et la deuxième fois, bien, inverse. Pour dire quand même, Gédéon, t'as reçu un appel, c'est quand même clair, tu vas pas encore embêter Dieu avec ça. C'est un manque de foi, Gédéon. Sauf que Gédéon, dans sa nature, il a besoin d'être rassuré. Il a besoin d'être rassuré. Et quand il part au combat encore contre les Philistins, eh bien, Dieu lui dit, écoute, je vais encore t'encourager. Descends dans le camp des Philistins, tu verras bien. Et si tu as peur d'y aller tout seul, vas-y avec ton serviteur. Et là, quand il descend dans le camp des Philistins en pleine nuit, juste au moment-là, un soldat dit à son collègue de chambrée, écoute, j'ai fait un rêve ou un cauchemar, hein, et il lui explique, et l'autre lui dit, bah, c'est Gédéon qui va venir nous détruire. Et ça va encourager le cœur de Gédéon. Il y a des natures, il y a des frères et sœurs, et puis on pourrait dire chacun d'entre nous, nous avons besoin d'être rassurés. On fonctionne comme ça. Et ce n'est pas un manque de foi, mais au contraire, c'est la rosée de la patience de Dieu. Dieu est patient avec nous. Gédéon est un homme qui a besoin d'être rassuré. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu le sait. C'est que Dieu le sait. Et il a formé Gédéon, il connaît son caractère, sa personnalité, etc. Et Dieu sait que Gédéon a besoin d'être rassuré. Alors, il va le rassurer tout au long, bien sûr, de sa vie. Dieu est patient avec chacun d'entre nous. Il connaît mes peurs, il connaît mes craintes, il connaît mes doutes, il connaît mes incompréhensions, il connaît mes coups de colère, il connaît mes infidélités. Mais Dieu est patient. Dieu est patient. Et ce matin, nous pouvons nous laisser rafraîchir par sa rosée. La rosée de la patience de Dieu. Hein ? Un petit peu de calme, voilà, on va prendre un peu de recul, mon enfant, je suis avec toi, etc., je te rassure, ne t'inquiète pas. La patience de notre Seigneur. Pierre dira ceci, de Pierre 3, 15, « Croyez que la patience de Dieu, c'est votre salut. » C'est votre salut. Alors on conclut ce matin avec deux beaux textes d'Ésaïe. Hein, le premier, c'est dans Ésaïe 55, et puis l'autre, ce sera un peu plus loin. Mais le premier, donc, cherchez l'Éternel. Vous, voilà, vous qui avez soif d'abord, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien. Vous qui avez soif, venez. On entend les paroles de Jésus tout à l'heure, venez à moi, vous tous qui avez soif, qui avez besoin d'être rassasiés, venez à moi. Et ce matin, le Seigneur nous le rappelle. Et puis, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. L'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. et la suite. Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de votre voix, mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie, la neige descend des cieux, n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et à celui qui ment. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Qu'il en soit ainsi ce matin pour chacun d'entre nous, nous qui avons soif, qui avons besoin d'être rassasiés. Dieu nous donnera toujours le meilleur moyen, au meilleur moment, que ce soit une source, que ce soit la pluie, que ce soit la rosée, que ce soit les trois en même temps, plaise à Dieu. Mais en tout cas, si nous avons soif, et je suis convaincu que nous avons soif de sa présence, eh bien, il saura nous désaltérer. Amen. Est-ce qu'on pourrait rechanter, pour préparer ce temps de Sainte-Seine, ce cantique « Plonge-moi dans ta rivière d'amour hein, », comme une prière, un renouvellement, pour que le Seigneur ce matin eh bien, soit glorifié. Et puis on va prendre ensuite un temps autour de la Sainte-Seine, autour de la parole de Dieu, autour du sacrifice de Christ. Si on pouvait ce matin, eh bien, ensemble, nous approcher du trône de la grâce. « Plonge-moi dans ta rivière d'amour ». Peut-être Christian, Manette et Serge hein, pourraient venir aussi pendant ce moment de chant sur le devant pour préparer la Sainte-Seine. On pourrait se lever, hein, nous qui sommes baptisés, mais voilà. Que ce chant soit une prière.